Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenue dans Au cœur du crime, une série proposée par l'Obs. Ils ou elles se sont retrouvés, de par leur métier ou par le hasard de la vie, au centre d'une histoire judiciaire, et ils nous racontent comment leur existence a soudain basculé. L'affaire Grégory, deuxième épisode. Doane Buy reçoit l'ancienne journaliste Laurence Lacour.
En 1987, la Cour de cassation casse l'arrêt de renvoi de Christine Villemain aux assises et dépayse le dossier. C'est le juge Simon à Dijon qui va reprendre l'affaire. Ce qui va changer totalement la façon dont le cas Christine Villemain va être traité.
C'est sûr que dès que la cassation a été ordonnée, on a changé d'époque, on a changé de lieu, on a changé de géographie, on a changé d'acteur. Et tout a radicalement changé. Et il était temps, parce que franchement, on était tous épuisés. Et quand je dis on, c'est les journalistes, les protagonistes, les avocats. Je crois qu'on était tous allés au bout de nos faiblesses et de nos médiocrités. Et que tout le monde en avait conscience à un moment donné. Donc ça a été quand même une plage de salut que l'idée de dépayser ce dossier, comme on dit, et de le renvoyer devant une cour qui n'était pas du tout concernée. Et ce faisant, ils ont désigné leur président, qui était donc le magistrat Maurice Simon, qui a été un ancien juge d'instruction qui avait été connu pour démêler des affaires déjà très délicates et à qui ce dossier a été confié. Et à partir de là, il y a une période de sérénité qui s'est installée. Les témoins ont reçu l'ordre impératif de se taire, les avocats également. Voilà, donc le juge leur a dit « moi je vais travailler » et communication limitée au strict minimum de la part des avocats.
Les journalistes reviennent quand même sur place parce qu'il va y avoir des reconstitutions à l'hôtel.
Alors ils reviennent sur place, donc ils reviennent, mais ils lâchent prise quand même. Parce que par exemple, la première audition de Christine Villemain qui intervient en juillet 87 à Épinal, ça aurait été forcément une course-poursuite. Il y aurait eu des cris, des sifflets, des bagnoles qui arrivent en trombe. C'était une ambiance, mais incroyable à chaque fois. Je refais juste un petit retour en arrière. Je me souviens d'une fois où alors elle était enceinte de 7-8 mois, donc c'était assez. Ça se voyait, quoi. Elle était vraiment. Le tribunal était fermé de toutes parts. Pour se protéger justement des journalistes pour qu'ils n'y rentrent pas. Sauf qu'elle, elle devait y rentrer. La porte était fermée, c'était une porte en verre. La foule poussait derrière, elle était écrasée contre la porte en verre avec son ventre qui était... C'est quand même des scènes qu'on n'oublie pas comme ça. Là, elle arrive dans les petites rues qui entourent le palais de justice de Dijon, il n'y a personne. Et elle-même, elle ne comprend pas, elle n'en revient pas. Elle a tellement été habituée à être maltraitée, c'est pas qu'elle le regrette, mais elle est saisie, quoi. Elle se dit, c'est bizarre, quoi. Elle n'a connu que ça, et voilà. Et donc, les journalistes ont raté ses premières auditions, ce qui était inconcevable un an plus tôt. Donc, non, il y a eu quand même une période d'accalmie. Alors, c'est sûr qu'à l'automne, le magistrat a ordonné des reconstitutions, je dirais, grandeur nature. C'est-à-dire par les mêmes conditions climatiques, les mêmes conditions d'éclairage, les déplacements sur les lieux, entre les différents points cruciaux.
Et vous y étiez?
Alors là, moi, j'y étais. C'était l'avant-dernier reportage que j'ai fait sur cette affaire. Là, évidemment, les journalistes, on est tous revenus parce que personne ne pouvait nous empêcher d'assister à quelque chose qui se passait en plein air. Et donc, c'est vrai que ces reconstitutions étaient saisissantes. Bon, il y a évidemment une scène qui, pour ma part, m'a bouleversée, mais je n'ai pas été la seule. Lorsque on a jeté un mannequin de la taille de Grégory, habillé comme Grégory et ficelé par des cordelettes comme Grégory, qu'il a été jeté dans la rivière par un gendarme, de façon à tenter de calculer la trajectoire qu'il avait suivie sur la rivière pour tenter de déterminer le lieu d'où il avait été jeté. Là, on réalise qu'il y a bien quelqu'un qui, avec ses bras, a finalement jeté ce corps dans une rivière. Et je crois que dans cette reconstitution, il y avait de la part du magistrat instructeur une volonté justement de frapper l'opinion publique, parce que s'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a plein de gens qui savent et qui ne parlent pas. C'était aussi une façon de leur dire « voilà ce que vous cachez ».
Et en décembre 1987, Jean-Marie Villemain est libéré. Et pour vous, c'est la dernière fois, je crois, que vous allez traiter de l'affaire pour Europe 1.
Le dernier portage, c'est donc la libération de Jean-Marie Villemain, qui intervient le 24 décembre 1987, au bout de 2 ans et demi d'emprisonnement. Moi, il y a 2 choses qui m'ont frappé ce soir-là. C'est de l'avoir entrevu Jean-Marie Villemain dans la voiture de ses avocats qui quittaient la prison de Saverne. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est son visage extrêmement maigre, extrêmement émacié. Voilà, donc j'ai cette image-là dans les flashs bleutés dans la nuit du 24 décembre au 25, qui est sorti vers 21h, je crois.
Il est sorti juste avant Noël, du coup.
Enfin, le soir de Noël. Le soir de Noël. Oui, ce qui était évidemment aussi très symbolique quand même. Et puis, après, donc, je suis allée dans un resto, une Wienstube de Saverne, avec mes bons copains. Et puis là, on avait l'arrêt, c'est-à-dire le document justifiant par écrit les raisons pour lesquelles il avait été remis en liberté, que nous avaient remis les avocats. Et dans cet arrêt, on a compris que Christine Villemain était en voie d'être innocentée, sinon son innocence établie. Et là, moi, je dois vous dire que ça a été un grand choc, parce qu'on s'était habitué à la version contraire. Et je dois dire que c'était plus confortable d'y croire que de ne pas y croire. Parce que de ne pas y croire, ça demandait une résistance intellectuelle, ça demandait une conscience aussi de ce que cette femme pouvait endurer, et c'était quand même pas du tout confortable mentalement. Et donc, comme les autres, je m'étais laissée gagner par cette espèce de confort de lâcheté. Si c'est elle, c'est elle. Mais sans hargne, sans rage, une espèce de d'impuissance comme ça à considérer, mais ça n'enlève rien à la sympathie que je lui portais. Je la trouvais extrêmement sympathique, le peu que je l'avais rencontrée.
Parce que vous l'aviez déjà interviewée?
Oui, je l'avais interviewée, bien sûr, je l'avais vue à plusieurs reprises, même si je la voyais moins parce qu'elle était tellement harcelée qu'elle était retranchée. Voilà, mais donc là, il y avait noir sur blanc, ça faisait voler en éclats cette espèce de confort de lâche qui nous avait habité pendant les 2 années précédentes. C'est ce soir-là que s'amorce pour moi une prise de conscience.
Parce qu'après, très vite, vous devez partir sur le Paris-Dakar. Vous
êtes 5 jours après.
5 jours après,
vous partez. Oui, le Dakar, c'est le premier. On est le 25. Et donc, je pars sur le Dakar le 1er janvier au matin. Et là, je pense que sans le Dakar, je n'aurais pas franchi le pas. C'est vraiment le Dakar qui aura cassé la corde qui était déjà largement cisaillée.
Qu'est-ce qui s'est passé au Dakar, en fait?
Parce qu'en fait, ça a été le Dakar le plus meurtrier de toute l'histoire. Il y a eu 8 morts en 20 jours. Pilote, copilote et autochtone. 8 morts en 20 jours, c'est énorme. Et dans les 8 morts, il y en a un dont j'ai été témoin. J'étais dans un village du Mali avec mon pilote, puisque je faisais bien sûr ça en voiture. Et nous avions crevé. Donc mon pilote était en train de réparer la crevaison. Et moi, je regardais la course qui passait. Et à un moment donné, la course passait très très vite, hein, genre 170 km/h dans les villages. Et à un moment donné, un pilote a heurté une petite fille d'une dizaine d'années devant moi, là, juste à quelques mètres. Et donc la petite a valsé dans les airs et elle est retombée désarticulée, elle était morte. Et le pilote ne s'est pas arrêté. Et donc, il s'est arrêté un peu plus loin, il a fait demi-tour, il a vu qu'il y avait 2 blancs dans du rallye, nos voitures nous signalaient de loin, évidemment. Il nous a fait signe, genre, démerdez-vous. Et c'est nous, donc, mon pilote et moi, qui avons dû prendre en charge la suite de cet événement absolument tragique. Puis jusqu'à ce que la direction de la course arrive et qu'elle fasse un chèque qui cloue l'affaire. Donc, on a repris la voiture ensuite. Et on est arrivé vers minuit au bivouac, et moi j'ai fait un premier reportage, évidemment, pour décrire ce que j'avais vécu, dont j'avais été témoin, et j'en ai proposé un autre pour le lendemain sur le même thème. Quoi. Pour moi, c'était gigantesque, évidemment. Et je me suis entendu dire, c'est bon, c'est un accident de la route, ça va. Quoi. Et là, je peux vous dire que c'est ce jour-là que j'ai vraiment décroché. Là, je suis rentrée, j'ai dit, c'est terminé. C'est terminé parce que je ne l'ai pas dit aussi vite, malheureusement, parce que ce n'était pas si clair. Mais en gros, c'était, mais qu'est-ce que je fais dans ce monde qui ne fait aucun cas des dégâts qu'il laisse derrière lui? Je trouvais ça, mais d'une violence et d'une vulgarité, cette façon de considérer ça comme un accident de la route. Bah oui, c'est un accident de la route. Bah oui, d'accord, mais enfin bon, ça peut peut-être être vu un petit peu autrement quand même. Quand vous vous retournez, que vous vous dites, à propos par exemple du cas de Christine Villemain, Ok, donc si elle est innocente, ça veut dire que tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit depuis 3 ans et demi, c'est nul et non avenu et que ça n'aurait pas dû exister. Ben moi, je suis désolée, ça a réveillé ma conscience. Oui, je pense que c'est à se vomir soi-même d'avoir joué ce jeu, dont on n'était pas dupe en plus. On a très bien vu comment les choses se sont fabriquées de l'intérieur, on les a très bien vues se déliter de l'intérieur. J'aurais pu partir plus tôt, j'aurais pu réagir, je ne sais pas comment, mais en tout cas j'aurais pu partir plus tôt, mais je n'avais pas la conscience encore pour le faire. Et à partir de là, la conscience m'est vraiment arrivée. Une espèce de voix en moi qui m'a dit, c'est pas ça la vie, c'est pas ça ton métier, c'est pas ça que tu veux faire, c'est pas ça que tu veux vivre. Et à partir de là, bah, débrouille-toi ma vieille avec ça.
Vous décidez de quitter le métier et en même temps, vous avez ce projet d'écrire, en tout cas de revenir sur cette affaire.
C'est au bout de 6 mois, justement, en me rendant compte que la seule chose qui me restait vraiment, c'était ce dossier Grégory, que là, je me dis, bah, il faut le regarder en face et il faut essayer de comprendre. Et je voulais comprendre tout ce que je fais d'ailleurs depuis, mais les 2 livres que j'ai publiés ensuite, c'est pareil, je veux comprendre ce que moi j'ai fait à ce moment-là, pourquoi je l'ai fait, dans quel contexte, et dans quelle mesure j'ai fait du mal aux autres, et comment est-ce que je peux le réparer.
Christine Villemain va être innocentée en 93. Ça a été quoi après vos relations avec elle? Vous l'avez revue Parce que justement, quand vous faites vous avez ce projet de livre, j'imagine que vous prenez contact avec elle.
Effectivement, la première chose que j'ai faite, c'est de leur écrire une lettre pour leur dire, voilà, je vais préparer un livre, je suis désolée, encore un livre sur votre histoire, mais cette fois, je vais essayer de raconter les mécanismes par lesquels vous avez chuté, par lesquels vos proches ont souffert, et y compris Bernard Laroche, etc., et sa famille. Et je leur ai écrit, ils ne m'ont pas répondu, mais je m'en doutais, parce qu'ils étaient soumis à un contrôle judiciaire, ils n'avaient absolument pas le droit de communiquer avec qui que ce soit. Donc néanmoins, je me suis obstinée, j'ai écrit en 88, j'ai écrit en 89, j'ai écrit en 90, j'ai écrit en 91, j'ai écrit en 92, et en 93, la lettre est arrivée. Waouh.
Et qu'est-ce qu'elle disait, cette lettre?
Elle disait, écoute, nous sommes curieux de savoir ce que tu vas faire. Nous ne pouvions pas te parler avant parce que nous étions soumis à un contrôle judiciaire. Maintenant, c'est fini, pour Christine en tout cas. Et si tu veux venir, ben viens un soir dîner.
D'accord.
Et là, je vous avoue qu'au bout de 5 ans ou 4 ans d'attente, j'étais quand même très heureuse. C'était un moment très, très, très fort pour moi. Je ne les avais pas vus depuis plus de 8 ans. Donc, ils avaient leurs 2 enfants. Ils avaient Julien, qui est donc, j'avais connu bébé par la presse, parce que je ne l'avais jamais vu en vrai, qui était un petit garçon de 4 ans, qui était debout entre leurs jambes. Je le revois, il avait un bras autour de la jambe de Jean-Marie, un bras autour de la jambe de Christine, et il me regardait arriver. Et moi, j'avais le sentiment d'incarner le malheur, quoi. Et voilà, ils m'ont accueilli. Et moi, je dois dire que j'ai passé ma soirée à regarder Christine et ses enfants. J'essayais de... C'est un peu horrible à dire, mais je voulais voir comment elle se comportait avec ses enfants. Je me disais peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche.
Ah oui?
Que je vais voir. Oui, oui, c'était ça. Hein. Je la regarde. Enfin, je ne faisais pas que de la regarder, mais en tout cas, tous ces gestes à l'égard de ses enfants, je les passais.
Vous les scrutiez?
Je les scrutais à l'aune de ce qu'on avait vécu et de ce qu'on avait cru pendant des années quand même. On ne se débarrasse pas de ces choses-là en 2 temps, 3 mouvements.
Au départ, quand vous commencez l'écriture du livre, vous allez prendre contact avec le juge Simon et vous allez le rencontrer.
Eh ben, il fait partie des personnes auxquelles je me suis adressée, évidemment, parce qu'il y avait un problème majeur qui se présentait à moi, c'est de combien de temps je pouvais disposer pour faire ce livre. Tout le monde disait « l'affaire va se terminer, l'affaire va se terminer ». Donc, comment on fait un livre lorsqu'on veut être quand même un peu en phase avec l'actualité, si on n'a que 3 mois devant soi? D'abord, je ne savais même pas ce que je voulais faire, en plus, donc c'était quand même très compliqué. Donc, je me suis dit, après tout, je vais demander au principal intéressé. Lui devrait pouvoir me le dire. Alors, ça faisait sourire tout le monde autour de moi qui me disait, oui, c'est ça, vas-y. Oui, tente ta chance. Sauf que ça marchait. Je lui ai écrit une grande lettre où je mettais tout sur la table, quoi. Mes remords, mon sentiment de culpabilité vis-à-vis de Bernard Laroche, mes souffrances de jeune journaliste qui avait perdu tous ses repères. J'y suis allée avec les tripes sur la table, quoi, en me disant, de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Et je lui disais, voilà, je ne veux pas vous parler ni de ça, ni du dossier, je veux juste que vous me donniez le laps de temps dont je pourrais bénéficier pour travailler. Et en fait, il m'a téléphoné un matin, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il me téléphone, mais il m'a téléphoné en disant, écoutez madame, j'ai été très touchée par votre lettre, si vous voulez venir, venez, mais nous ne parlerons pas du fond du dossier. Ben, je lui ai dit non, ça me paraît évident. Et puis voilà, donc je suis allée le voir 3 semaines après. Et puis c'est vrai que ça a été un moment clé dans mon existence, puisque j'ai rencontré un homme qui m'a frappée par son humanité. Et ça, c'est ce qui me manquait. Mmh. C'est ce qui nous a manqué pendant des années, où on a traité les gens comme des pions, comme des petits soldats de bois, qu'on déplaçait sur un échiquier, dont on avait nous-mêmes dessiné des cases complètement aberrantes. Et il n'y avait aucune humanité dans cette affaire. Vraiment, c'est ça qui m'a le plus frappée. Il n'y avait aucune humanité. On ne respectait rien ni personne. Mmh. Ça avait commencé sur la tombe de l'enfant et ça avait tout le temps été comme ça, mais tout le temps. Et là, je me suis trouvée en face de quelqu'un qui avait d'abord beaucoup de prestance, beaucoup d'allure, qui était impressionnant et qui parlait des mêmes, mais avec beaucoup de respect. Et là, pour moi, ça a été une ouverture, quoi, parce que c'était le retour de quelque chose que j'avais perdu. Et je le dis sans pudeur, j'ai été éblouie par cet homme. D'ailleurs, je suis sortie, j'ai toujours un carnet de notes sur moi. Je prends des notes et j'avais noté éblouissant. Juste par la délicatesse avec laquelle il avait évoqué ces gens. Je sentais qu'il voulait vraiment restituer la réalité de chacun, qui avait tellement été piétiné. Donc oui, ça m'a éblouie, absolument. Et puis, il m'avait dit, écoutez, si un jour vous souhaitez revenir, je serais heureux de discuter avec vous de tout cela, un jour. Bon. Et un soir, voilà, j'étais perdue, je ne savais pas. Je lui ai écrit en disant, il n'y a qu'à vous que je peux dire ça. Qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Comment on sort d'un maelstrom pareil. Je ne sais plus exactement comment j'ai formulé les choses, mais c'était une espèce d'appel à l'aide. Et il a répondu, très simplement, quelques temps plus tard. Je ne sais plus comment il a formulé les choses. Je me souviens qu'il s'était étonné que je sois si seule et si triste. C'était ses mots. Parce qu'effectivement, j'étais très, très seule. Je m'étais vraiment infligée une assaise. Vraiment, voilà, c'est ça.
C'est étonnant quand même que vous lui écriviez à lui, à ce moment où vous êtes...
Oui, mais c'est quand même la seule source de lumière que j'ai trouvée. Ouais, alors, je mets de côté mes parents, ma famille, qui étaient très solidaires, mais qui ne comprenaient pas trop ce qui m'arrivait. Et ce n'était pas vers eux que j'avais envie de me tourner. J'avais envie de me tourner vers quelqu'un qui savait ce dont je parlais.
D'accord.
Qui avait les mêmes tenants et aboutissants, même s'il ne connaissait pas toutes les coulisses, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, j'avais besoin d'un combattant de cette guerre-là qui m'éclaire, quoi. Et puis, voilà, on a entamé une correspondance assez lente dans un premier temps, parce que ces choses-là ne se font pas aussi naturellement qu'on pourrait le penser, qui s'est accélérée avec le temps et qui est devenue un échange très intime.
139 lettres, c'est ça?
139 lettres, vous avez bien compté, mais je crois que je les avais comptées avant vous. Oui, 139 lettres que nous avons échangées, qui étaient une réflexion sur la vie, sur la mort, sur la justice, sur l'âme. Je me souviens beaucoup de... C'était quelqu'un qui... Et puis, il m'a raconté sa vie par le menu. Je crois qu'il avait très envie de se confier, il était lui-même très seul. Et en me racontant sa vie, qui était quand même assez forte, hein, il avait fait la résistance, il avait connu la guerre d'Algérie, il avait traversé quelques dizaines d'années de magistrature avec des dossiers très complexes où il avait vraiment beaucoup bataillé. Et à chaque fois, il me délivrait les leçons que j'attendais, quoi. En me parlant de sa propre vie, il s'intéressait à la mienne, bien sûr. Mais en tout cas, moi, c'était ce qui m'intéressait, c'était les leçons qu'il pouvait me délivrer de son existence. Et puis, ben, évidemment, un jour, la correspondance est devenue plus familière, puis après, plus sentimentale. Et puis, voilà, il y a un jour, nous avons fait le constat que nous ne vivons plus jamais l'un sans l'autre. Nos vies étaient scellées.
Par ses lettres et par ce
par
que
ses
vous,
lettres et par
ce que vous aviez échangé,
ce que nous
l'un
avions
l'autre.
Échangé par les points communs qui nous réunissaient, même si tout en apparence nous séparait. On avait 35 ans d'écart. Moi, j'étais une jeune journaliste. Lui était un haut magistrat en fin de carrière. Nous avions vraiment. D'ailleurs, il me l'a dit. Il m'a dit vous. Il est venu me demander de l'attendre et il m'avait dit mais il va falloir être courageuse parce que ensuite, d'abord, il va falloir attendre la fin de l'affaire Grégory, donc ça va prendre encore des mois. Et ensuite, vous verrez, nous aurons tout et tout le monde contre nous. Mais bon, ça ne m'a pas arrêté.
Ça ne vous a pas fait peur?
Non.
Vous suiviez ce qui se passait, parce qu'il était déjà attaqué.
Oui, et puis là, il était isolé, il était sous pression, il a fait un ou deux faux pas, ce qui est tout à fait humain, mais malheureusement pour lui, ça aurait été fatal. Là, j'ai senti qu'il n'avait pas du tout compris où il avait mis les pieds. Ça, je l'ai senti. D'abord, j'étais très surprise de découvrir la première interview qu'il a donnée, même si je n'avais pas une relation encore très, très familière avec lui. Mais je me dis, mais attends, mais pourquoi il fait ça Et je lui dis, mais pas vous, là, je vous en supplie, pas vous, vous n'allez pas faire comme les autres, c'est pas possible. Et voilà, bon, je sais plus ce qu'il s'était défendu. Il m'avait dit, je vous expliquerai plus tard. Bon, avec ça, j'étais pas très éclairée. Mais il a été rattrapé par la mécanique. Et c'est la mécanique qui... En 3 mois, il a été broyé.
En 3 mois ?
En 3 mois, il a été broyé, oui.
Et cette mécanique, c'était la même qu'à l'époque d'Épinal, avec les mêmes...
C'était les mêmes protagonistes, c'était les mêmes enjeux. C'était pas tout à fait les mêmes journalistes, c'était même pas du tout les mêmes journalistes. Il y en était d'autres qui n'ont pas été plus glorieux que ceux auxquels je pense précédemment. Mais c'est en tout cas la mécanique, le système était le même, oui. C'est-à-dire qu'il avait, il était respecté parce qu'il avait réussi à imposer le silence dans cette affaire. Et le jour où il a parlé, il n'a pas compris qu'il se sabordait, qu'on ne lui pardonnerait pas. Ça a été une crise cardiaque en janvier 90 qui l'a fauché. Mais oui, c'est sûr que sa santé a subi des à-coups terribles avec ça.
Et donc en 90, il est victime de cette attaque. Vous êtes prévenu comment ? Parce que vous faites déjà partie de sa vie, mais pas vraiment non plus officiellement, on va dire.
Eh bien, c'est simple. Il avait pris des dispositions, parce que je pense qu'il pensait qu'il allait mourir. Je crois qu'il avait... D'ailleurs, j'ai bien compris. Après, j'ai vu qu'il avait pris des dispositions. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'il survivrait amnésique. Mais ça, c'est vraiment ça. Il ne pouvait pas l'anticiper. Eh bien, il avait prévu. Il avait mis dans son portefeuille, il avait une carte de visite. Et au dos de cette carte de visite, il y avait les noms des 3 personnes à prévenir, qui étaient sa compagne, la mère de son enfant, sa greffière, qui était quand même son bras droit et la mémoire de ce dossier, et puis moi. Voilà. Donc, les gens, quand ils ont vu sa famille, a vu le nom, ne savaient pas qui c'était. Mais bon, c'était ses volontés. Donc, on m'a prévenu et j'ai été prévenu le jour même, comme ça. Après, il a fallu que moi-même, j'explique qui j'étais et ce à quoi je... Parce que c'était compliqué quand même au début, parce qu'il est sorti de son coma amnésique.
Il avait oublié votre nom, c'est ça ? Mais pas
oui.
Vous.
Moi, il ne m'avait pas oublié, mais il avait oublié mon nom. Alors, si, je dois dire que par chance, quelques jours avant, il avait parlé de moi à sa fille aînée.
D'accord.
Donc, ça a permis quand même de faire la jonction. Il est sorti très, très abîmé de son coma. Il avait vraiment plus de... Mais il avait quand même gardé ce que j'appelle la mémoire du cœur, parce qu'il a reconnu ses enfants, il a reconnu son entourage, même si c'était un peu chaotique au début. Et moi, lorsque j'ai été autorisée à aller le voir, il m'a reconnu aussitôt. C'est comme ça que j'ai compris que la mémoire se nichait pas seulement dans le cerveau, mais aussi dans le regard et dans le cœur.
Et ensuite
Et ensuite, conformément à son vœu et au mien, nous avons vécu ensemble, comme on l'avait envisagé, mais avec évidemment une accélération du temps et des événements, ça qu'on n'avait pas du tout envisagé. Et donc, je suis restée à ses côtés, bien évidemment, et nous sommes partis de cette région. On a vécu dans une autre région, coupée de tout, de tout le monde, et je l'ai assisté de son mieux jusqu'à la fin de ses jours.
Et il était devenu amnésique, c'est ça ?
Oui.
Donc, cette affaire qu'il avait hantée, rongée, on ne s'en souvenait plus. Et non. Vous, au départ, vous essayez de lui en parler pour activer la mémoire,
c'est ça ? Je pensais que c'était important. Je savais quelle place ça avait tenu dans son existence. Donc, je pensais qu'il fallait tout faire pour lui rendre ce qui avait été quand même sa raison de vivre des dernières années. Donc, j'ai bataillé. On a vu des spécialistes, des sophrologues, des psychologues, des tout ce que vous voulez, orthophonistes et tout. Mais rien n'a jamais pris. Au bout d'un an, j'ai compris que... Mais non, c'est pas ça. J'ai compris que s'il oubliait, c'est qu'il voulait oublier. Là, je me suis dit, arrête, t'es vraiment dans l'erreur, quoi. C'est parce qu'il veut oublier. Donc, tu le laisses.
Vous avez arrêté de lui parler de l'affaire
Oui, à un moment donné, on n'avait pas beaucoup de sens de parler à quelque chose qui n'avait pas de... Mais en même temps, j'écrivais mon livre.
Ouais. Vous étiez toujours
à 2 mètres de lui, parce qu'il était assis à côté de moi quasiment toute la journée. Donc c'était très particulier, c'est très bizarre quand même. Je racontais son histoire dont il n'était pas capable de se souvenir. Et la phrase qui m'a fait lâcher prise, qui est intervenue plusieurs mois, mais je ne sais pas combien de temps après, et un jour il vient me voir et il me dit... Mais il est enterré où, ce petit garçon dont tu parles si souvent ? Là, je me suis dit, bon, c'est fini, quoi.
Là, tu lâches prise.
Il a été atteint dans son honneur, qui était quand même quelque chose de très important pour lui, parce qu'il a fait l'objet d'attaques tout à fait inconsidérées, non fondées, et on a atteint ce qu'il avait de plus précieux au terme d'un parcours de 40 ans d'intégrité totale. Ça, il ne l'a pas supporté. Et donc, il est parti dans l'amnésie pour ne pas avoir à le regarder en face, je pense. Et en même temps, j'ai bien compris qu'il a survécu uniquement pour aller jusqu'au bout de cette affaire. Et il est mort 2 mois, d'ailleurs, après le procès.
J'ai l'impression aussi que pour les Villemain, ça a tellement changé quand le juge Simon a repris l'affaire. C'est quelqu'un qui était très important pour eux.
Elle était le même phare pour eux qu'il l'a été pour moi, dans un registre tout à fait différent. Mais c'est évident que lorsqu'ils ont compris qu'ils avaient affaire à quelqu'un qui les respectait, d'une part, et qui avait un souci de vérité, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a été pour eux comme si un rideau se déchirait, quoi. Ça a été, ils ont commencé à reprendre un petit peu confiance dans les hommes et en la vie, et ils se sont accrochés à lui après, évidemment, de manière comme des naufragés à une bouée. Alors, ils n'ont pas su grand-chose de son état de santé, parce que la famille avait été très discrète. Mais bon, ils ont quand même été obligés de constater qu'il n'était pas revenu aux commandes, puisqu'il a été obligé de passer la main à un successeur, vu qu'il n'était plus en capacité d'instruire.
Il les a revus.
Mais il les a revus, c'est ce que j'allais dire. Ouais. En revanche, quand il les a revus, donc 2-3 mois avant sa mort, là, il les a reconnus. Ils étaient venus, ils lui avaient offert une montre. C'était venu avec ce cadeau. Alors, je les avais quand même prévenus avant. J'étais allée les voir, je leur avais dit, vous savez, vous n'allez pas retrouver le même homme. Il faut vraiment que vous vous prépariez un choc. Donc, ils étaient un peu préparés quand même. Donc, ils lui avaient offert une montre qui symbolisait le temps qu'ils avaient passé ensemble. Parce qu'il les a entendus chacun, mais des dizaines. Il a dû l'attendre 122 heures ou un truc comme ça.
122 heures.
Je crois, un truc comme ça. Donc, il lui avait offert cette montre. Et c'était un moment très, très émouvant parce qu'il pleurait l'un et l'autre beaucoup. Enfin, Christine et Jean-Marie. Ils lui ont dit, vous nous avez sauvé la vie. Et c'est vrai, il leur a sauvé la vie. Je pense qu'il serait mort, sans lui, ils seraient morts tous les deux.
Tout le reste.
Ouais, c'est clair.
Et donc en 94, quand, après un ultime infarctus, il décède finalement, ça vous semblait naturel de prévenir Jean-Marie?
Je ne les ai pas prévenus, parce que moi, il fallait que je cours à l'hôpital, mais je les ai fait prévenir que c'était la fin. Voilà, je ne savais pas ce qu'ils allaient faire, c'était en pleine nuit. Mais bon, il y avait les deux petits, donc Christine est restée avec les deux petits, et puis Jean-Marie a pris sa voiture, il a foncé comme un dingue, mais il n'a pas eu le temps d'arriver avant la mort. Et à l'époque, il n'y avait pas de smartphone, on ne pouvait pas s'échanger de nouvelles, donc quand il est arrivé, il ne savait pas. Donc je le revois au sortir de l'ascenseur qui menait chez moi, parce qu'en fait, on avait rendez-vous chez moi, parce qu'il n'était pas question qu'on se retrouve à l'hôpital. Et son visage, ouais, il voulait savoir, quoi. Alors, je lui dis, c'est fini. Et après, on a passé toute la nuit à fumer, à cloper comme des dingues. Alors que moi, j'avais arrêté de fumer depuis 4 ans, à boire du café et à parler de lui, et à croiser nos souvenirs, quoi. Et à comprendre que... Parce que tout ça, je vous le dis avec 25 ans de recul, mais à comprendre, en imbriquant nos souvenirs, toute la lumière que ça avait pu apporter dans nos vies respectives. Le lendemain matin, je l'ai emmené au funérarium, bien sûr. Et donc, il s'est recueilli devant la dépouille de Maurice Simon. Et là, il a mis une photo de Grégory du côté gauche sur son cœur. Voilà, il est parti avec ça.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.